VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 11 avril 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République centrafricaine, un casque bleu a été tué hier dans des affrontements à Bangui.
Levée de l'interdiction de voyage aux États-Unis pour les citoyens du Tchad, annonce le président Donald Trump.
En République démocratique du Congo, un chef rebelle, deux autres miliciens et une femme tués dans une offensive de l'armée au sud Kivu.
Au Soudan, le président Omar al-Bashir a ordonné hier la libération de tous les détenus politiques.
Consultation hier entre les États-Unis et leurs alliés en préparation d'une action militaire après l'attaque chimique présumée en Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, fort regain de violence depuis dimanche à Bangui. Hier après-midi, un casque bleu a été tué dans des affrontements entre une patrouille composée de casques bleus et de soldats centrafricains et des milices d'autodéfense autoproclamées dans le quartier musulman du PK5 de la capitale. Joint ce matin dans la capitale centrafricaine, notre correspondant Freeman Sipila.
Ce matin, la situation est plutôt calme à Bangui après les tirs à l'arme lourde automatique entendus toute la nuit dans les secteurs du 3e et 5e arrondissement. Hier, les militaires centrafricains et les forces de sécurité intérieure avec les soldats de la MINUSCA ont repris les opérations de désarmement des bandes armées dans le PK5, le grand quartier musulman de la capitale centrafricaine. Ces opérations se sont soldées par des affrontements qui ont provoqué la mort de plus d'une vingtaine de civils, plusieurs dizaines de blessés. En majorité, des civils sont également enregistrés lors de ces opérations. Ce matin, les activités ont repris dans certains quartiers de la capitale. Le PK5, par contre, reste toujours paralysé. On enregistre aujourd'hui plusieurs centaines de déplacés à la mosquée centrale, la grande mosquée de la capitale. Par ailleurs, on ne connaît pas encore le bilan côté militaire. On nous parle d'un soldat rwandais de la MINUSCA tué dans les affrontements. En plus de cette situation, hier, une mutinerie a eu lieu à la maison centrale de Ndaraba. Les détenus profitant d'une manifestation contre la saisie de leur téléphone portable autorisé par les autorités ont voulu s'évader. La mutinerie a été maîtrisée par les gardes de la prison. À Bangui, Freeman Sipila pour VOA Afrique.
Le président Donald Trump a levé l'interdiction de voyage aux États-Unis pour les citoyens du Tchad, l'un des 8 pays frappés par son dernier décret migratoire. La Maison-Blanche explique cette décision par les améliorations apportées par N'Djamena pour mettre à niveau ses normes de sécurité pour qu'elles correspondent aux exigences de base de la sécurité nationale américaine. Le Tchad avait été inclus dans ce décret migratoire en même temps que l'Iran, la Libye, la Somalie, la Syrie, le Yémen, des pays essentiellement musulmans, et aussi la Corée du Nord. L'inclusion du Tchad avait étonné beaucoup d'analystes qui soulignaient que N'Djamena est un allié clé des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme.
En République démocratique du Congo, l'armée a lancé une offensive dans le sud Kivu. Un chef milicien, deux gardes du corps et une femme ont été tués dans les combats. Des détails avec Abdourahman Dia.
Le capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole adjoint de l'armée dans le sud Kivu, a indiqué que le chef rebelle Karakara, dont le groupe porte son nom, et deux de ses gardes du corps ont été tués près d'Uvira et de la frontière du Burundi. Selon lui, le chef milicien a rencontré une patrouille de l'armée qui mène des opérations militaires intenses dans la zone depuis le début de l'année. L'officier précise que Karakara faisait partie des groupes rebelles qui se coalisent avec d'autres groupes congolais ou étrangers, comme les FNL burundais. Il les accuse d'être à la base de l'insécurité dans la plaine de Ruzizi par des braquages de véhicules et le vol de bétail. Selon un responsable de la société civile locale, une femme a également été tuée. Karakara est un ancien capitaine des forces armées congolaises. Il a rejoint la rébellion fin 2013 avant de créer sa propre faction rebelle. Plusieurs groupes armés opèrent dans les régions du nord et du sud Kivu, dans l'est du pays.
Au Burundi, 21 personnes, dont un officier de l'armée et deux officiers de police, ont été arrêtées lundi à Bujumbura, accusés de vouloir perturber la sécurité au Burundi. De Bujumbura, notre correspondant Christophe Kourounziza.
Le porte-parole de la police, Pierre Ngourikiye, a précisé que parmi ces personnes arrêtées, la majorité demeure des civils, 17 au total. Parmi elles, deux officiers de police, un retraité de l'armée, un officier des forces de défense nationale du Burundi. Pour Ngourikiye, ces personnes ont été appréhendées vers 18h30 lundi soir dans un ménage du quartier Charama, au nord de la capitale Bujumbura. Le porte-parole de la police affirme que ces personnes ont été appréhendées parce qu'elles étaient suspectées de tenir des réunions visant la perturbation de la sécurité. Une enquête est en train d'être menée pour connaître ce que ces gens faisaient dans ces ménages. Le porte-parole indique que l'enquête pourra préciser de quoi ces personnes sont accusées, d'autant que ce n'était pas la première fois que ces personnes se réunissaient sur la même parcelle. Mais d'autres sources interrogées sur place indiquent que ces personnes étaient en train de jouer au tennis de table dans un club dont elles sont membres. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Ajoutons que selon une source de l'AFP, les services secrets burundais sont très nerveux à l'approche du référendum sur la constitution, car ils craignent que les opposants ne tentent de perturber la sécurité dans le pays. Cette réforme pourrait permettre au président Nkurunziza, 54 ans, au pouvoir depuis 2005, de briguer à partir de 2020 deux autres mandats de 7 ans. Le projet a été critiqué par la communauté internationale, notamment l'Union africaine.
En Côte d'Ivoire, l'ancien président d'Action pour la protection des droits de l'homme, Abraham Denis Yoroba, a déclaré hier à l'AFP qu'il avait reçu des menaces graves de membres des services de sécurité de Côte d'Ivoire en raison de son militantisme. La PDH, une association indépendante, est à l'origine d'un recours devant la Cour africaine des droits de l'homme à propos de la commission électorale indépendante ivoirienne, jugée partiale par l'opposition, et une coalition d'associations de la société civile, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, a expliqué M. Yoroba. Le premier ministre ivoirien, Amadougou Coulibaly, avait rejeté en février les critiques contre la CEI, estimant qu'elle était le fruit d'un consensus entre tous les acteurs politiques avant la dernière présidentielle de 2015.
En Égypte, un tribunal militaire a condamné à mort hier 36 personnes pour leur implication dans des attentats contre des églises. Selon les avocats de la défense, 48 personnes sont poursuivies devant ce tribunal pour leur implication dans des attentats contre des églises coptes au Caire, à Tanta et à Alexandrie entre 2016 et 2017. Ces attaques revendiquées par le groupe djihadiste État islamique ont fait au moins 80 morts.
Au Soudan, le président Omar el-Béchir a ordonné hier la libération de tous les détenus politiques. La plupart avaient été arrêtés après des manifestations contre la hausse des prix. Marie Benson.
Le président Omar el-Béchir a ordonné la libération de tous les détenus politiques pour promouvoir la paix, selon l'agence officielle Sunna. Certains ont déjà été libérés, mais Mokhtar al-Khatib, le secrétaire général du Parti communiste soudanais, et Khaled Omar, du Parti du Congrès soudanais, étaient toujours en détention peu avant la promulgation du décret présidentiel. Les ambassadeurs des États-Unis et de l'Union européenne à Khartoum avaient demandé la libération de toutes les personnes arrêtées. En janvier, de nombreux manifestants ont été arrêtés pour être sortis dans plusieurs villes pour dénoncer la hausse des prix, notamment le prix du pain. Il y a eu d'autres manifs en 2016 contre la réduction des subventions des prix du carburant. Le gouvernement avait alors réprimé la contestation pour éviter une reproduction des émeutes de 2013 qui avaient fait de nombreuses victimes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont consulté hier leurs alliés en préparation d'une éventuelle action militaire en Syrie suite à l'attaque chimique présumée qui a fait au moins 40 morts samedi dans un secteur tenu par les rebelles dans la Ghouta orientale près de Damas, la capitale. Nous voulons une réponse coordonnée, quelle que puisse être cette réponse, a déclaré la porte-parole du département d'État, Heather Nauert. Le président américain Donald Trump a déjà averti que les responsables de cette attaque paieront un prix fort. Il s'est entretenu à ce sujet avec son homologue français Emmanuel Macron et la première ministre britannique Theresa May.
Monsieur Trump a blâmé le gouvernement du président syrien Bachar al-Assad, tout comme ses principaux alliés, la Russie et l'Iran. Monsieur Assad dément avoir usé d'armes chimiques et hier, au Conseil de sécurité de l'ONU, Moscou a bloqué avec son veto un plan des États-Unis sur la création d'une commission pour enquêter et établir les responsabilités dans cette cette attaque. Signalons que le président Trump a annulé la visite qu'il devait effectuer à partir de vendredi en Amérique latine pour superviser sur place à Washington la réponse américaine à la Syrie.
Toujours à Washington, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a soutenu hier que le président Trump a les pouvoirs requis pour limoger le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Pour de nombreux experts juridiques, le président américain devrait pour cela passer par le numéro 2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein, qui pourrait rejeter cet ordre.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Les autorités congolaises ont inauguré mardi à Brazzaville le siège de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique, BSK Bank. Les travaux de la construction de cet immeuble de 15 niveaux construit en 2 ans ont été entièrement financés par l'argent du pétrole congolais à hauteur de 35 milliards de francs CFA. La banque est opérationnelle depuis 2015 et dispose d'un capital de 50 milliards de francs CFA répartis à parts égales entre la Banque agricole de Chine et le gouvernement congolais. Le Congo a contracté une partie de sa lourde dette publique qui inquiète le FMI. Le Centre russe pour les exportations et Afrexim Bank font une tournée en Afrique pour promouvoir des aéronefs et hélicoptères de l'industrie aéronautique russe. La tournée se déploiera dans plusieurs autres pays, notamment l'Ouganda, le Nigeria et le Mali. La Chine a porté plainte contre les États-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce. Pékin conteste la décision de l'administration Trump d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Selon un document publié hier par l'OMC, Pékin a demandé l'ouverture de consultations avec le gouvernement des États-Unis. La Chine attend la réponse des États-Unis à la présente demande et souhaite qu'une date et un lieu mutuellement acceptables soient fixés pour les consultations. Première étape du processus de règlement des conflits commerciaux prévus par l'OMC, Pékin a répliqué avec sa propre liste visant des importations américaines.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Incroyable retournement de situation hier soir à Rome en Ligue des Champions.
Et 1, et 2, et 3-0, l'AS Rome élimine le Barça, pourtant favori après sa victoire 4-1 à l'aller au Camp Nou. Au Stade Olympique de Rome, terrible désillusion pour les Blaugrana de Lionel Messi. Et coup de chapeau aux Romains qui ont rapidement ouvert le score dès la 6e minute par Dzeko. De Rossi sur pénalty en seconde mi-temps. Et Manolas sur corner à la 82e minute, scelle la qualification de l'AS Rome. Conclusion d'un chef-d'œuvre collectif que le Barça n'aurait jamais imaginé subir. Dans l'autre quart de finale de la soirée, Liverpool a encore battu Manchester City 2-1. Les Reds se qualifient pour les demi-finales. Longtemps incertain avant le début de cette rencontre, Mohamed Salah a encore marqué le premier but pour Liverpool.
Et ce soir, les deux derniers quarts de finale.
Eh bien, a priori, mais on va se méfier après ce qui s'est passé pour Barcelone. Le Real Madrid aura la partie facile face à la Juventus Turin après la victoire 3-0 au match aller. D'autant que la Juventus Turin sera limitée et notamment Paolo Dybala qui n'est pas présent pour les Italiens puisqu'il est suspendu pour ce match. Dans l'autre rencontre, après sa victoire 2-1 en Andalousie, le Bayern Munich est favori face au FC Séville, d'autant que le Bayern Munich a remporté le championnat d'Allemagne dès ce week-end, mais veut être concentré pour réussir un doublé.
Caster Semenya brille au jeu du Commonwealth.
Et l'athlète sud-africaine a survolé mardi le 1500 mètres de ses jeux du Commonwealth. Âgée de 27 ans, Semenya a déposé sans être inquiété ses adversaires dans le dernier tour de piste pour l'emporter en 4 minutes et 71 centièmes devant la Kenyane Béatrice Chepkoech et la Galloise Melissa Courtney. Semenya a amélioré le record d'Afrique du Sud et remporte ainsi sa première médaille aux Jeux du Commonwealth après ses titres mondiaux et olympiques sur 800 mètres. Allez Idrissa, c'est bientôt les playoffs, mais on joue encore sur les parquets de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Charlotte Hornets et Indiana Pacers, 119 à 93. Philadelphia Sixers et Atlanta Hawks, 121 à 113. Washington Wizards et Boston Celtics, 113 à 101. Phoenix Suns et Dallas Mavericks, 124 à 97. Utah Jazz et Golden State Warriors, 119 à 79.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Une centaine de délégués représentants d'ONG de défense des droits de l'homme, de gouvernement ou d'institutions internationales étaient réunis lundi et mardi à Abidjan dans le cadre du Congrès régional africain contre la peine de mort. Précision de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara.
Abidjan, le 10 avril 2018.
Dans la déclaration d'Abidjan qu'ils ont chaleureusement applaudi, les participants à ce congrès ont pris l'engagement de poursuivre leurs efforts en vue de l'abolition de la peine de mort partout où elle est en vigueur ou appliquée comme au Botswana, en Égypte, en Guinée équatoriale, au Nigeria ou au Tchad. Jacqueline Moudeina, militante tchadienne des droits de l'homme.
Il y a une loi qui a été adoptée, une loi antiterroriste qui a été adoptée. En vertu de cette loi, une dizaine de jeunes ont été jugés, condamnés et exécutés, malheureusement pour nous. Alors ça devient très difficile parce que maintenant, le combat revient sur le chemin. Il faut maintenant mener un combat contre cette loi. Il faut que cette loi soit absolument abrogée.
L'un des temps forts de ce congrès d'Abidjan aura été les témoignages de plusieurs anciens condamnés à mort. Vincent Bémy dirige une organisation de défense des droits des prisonniers.
Les témoignages poignants que moi j'ai écoutés, notamment le témoignage récent de celui qui a fait près de 20 ans en prison dans le couloir de la mort aux États-Unis. Son message était fort. Il a dit que ce qui l'intéresse, c'est de savoir que maintenant qu'il est en liberté, qu'il a encore des frères qui sont encore en détention et qui attendent dans le couloir de la mort, de savoir qu'il y a des personnes dehors qui, effectivement, s'impliquent dans cette lutte. En voyant ces personnes qui se mobilisent pour les sauver, ça donne encore plus d'espoir pour le séjour qu'ils ont encore à passer dans ces lieux-là.
Andrea Ori est le représentant pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour lui, rien ne saurait aujourd'hui, pas plus qu'hier, justifier l'application de la peine de mort.
On voit que l'application de la peine de mort, c'est pour les minorités qui subissent la peine de mort, les démunis qui n'ont pas les moyens de se servir d'un bon avocat et ce n'est pas équitable. Alors c'est une cruauté qu'il faut dépasser.
Selon les données de l'association Ensemble contre la peine de mort, initiatrice de ce congrès, sur les 55 pays que compte l'Afrique, 19 ont déjà totalement aboli la peine de mort, 24 ne la pratiquent plus, bien qu'elle soit encore en vigueur. Toutefois, elle reste appliquée dans 12 pays du continent. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Le programme international Flintlock, lancé en 2005, a débuté au Niger. Cette opération dirigée par AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, implique les pays membres du G5 Sahel, ainsi que le Sénégal, le Cameroun et 12 partenaires occidentaux. John Linden a joint à Stuttgart, en Allemagne, Mustafa Kjaouj, porte-parole de l'AFRICOM.
Flintlock a commencé le 9 avril et va durer jusqu'au 20 avril. Environ 1900 représentants de 20 pays africains et occidentaux participeront à l'édition de cette année. Les activités seront menées au Niger, au Burkina Faso aussi bien que au Sénégal.
Qu'est-ce que vous faites concrètement pendant ces opérations?
D'abord, Flintlock est un exercice annuel qui concerne les militaires et les agences d'application de la loi. Il est dirigé par les Africains eux-mêmes et depuis 2005, l'exercice vise à renforcer les forces de pays partenaires clés d'Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi que les forces spéciales occidentales. Flintlock est le plus important exercice de forces spéciales qu'organise le commandement des États-Unis pour l'Afrique. L'exercice vise à renforcer les capacités des pays partenaires clés de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, protéger leurs frontières et assurer la sécurité de leur population. En outre, c'est un exercice qui renforce les partenariats entre les forces d'opération spéciales et les forces de l'ordre des pays d'Afrique, des États-Unis et de l'Ouest, et renforce aussi leur capacité à travailler ensemble, leur interopérabilité, pendant qu'ils participent aux opérations multinationales en cours ou en réponse aux crises.
Alors, vous avez parlé de 3 pays concernés, le Niger, le Sénégal et le Burkina Faso. Comment s'est opérée la sélection?
Nous menons des conférences de planification de l'exercice chaque année. Durant ces conférences, on demande aux pays partenaires pour savoir ceux qui sont intéressés à accueillir l'exercice et on fait la détermination basée sur les demandes.
Et quand est-ce que les prochaines opérations sont prévues et est-ce que vous savez où est-ce qu'elles auront lieu?
La planification de l'édition 2019 de Flintlock est en cours et le pays hôte n'a pas encore été déterminé. Une annonce officielle détaillée sera transmise éventuellement après la fin de l'édition Flintlock 2018.
L'Afrique fait face à de nombreux fléaux. Le djihadisme, vous en avez parlé. En quoi est-ce qu'une opération comme celle que vous menez peut aider à éliminer ce genre de fléaux?
Comme vous savez, le terrorisme est une menace transfrontalière. Donc, il faut vraiment avoir une réponse régionale pour pouvoir résoudre le problème. L'exercice Flintlock vise à développer, à renforcer les capacités des pays partenaires africains et d'autres pour pouvoir faire face à cette menace transnationale.
C'était Mustapha Jaouz, porte-parole de l'AFRICOM, commandement américain pour l'Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Tunisie, entre les murs couverts de fresques dans un conservatoire de la Médina, des dizaines de muezzins lancent successivement l'appel à la prière. Les yeux fermés, concentrés, ils apprennent à déclamer ces paroles saintes de la manière la plus mélodieuse. Un professeur les accompagne pour rendre leur chant plus harmonieux et promouvoir la version tunisienne de l'appel à la prière, une version pacifique. Délie Dico nous en dit plus.
Deux fois par semaine, jusqu'à la mi-avril, les muezzins de Tunis se retrouvent à Rachidia, l'institut de musique traditionnelle plus habitué à former des choristes ou des joueurs d'oud. Écoutons Abdel Idri, un muezzin en apprentissage à Rachidia.
Nous sommes là pour améliorer nos appels à la prière. Cette formation vocale est axée sur différents styles. Ainsi, lorsque nous ferons l'appel à la prière après cette formation, les personnes qui nous entendront seront ravies. Il y a des appels à la prière que nous préférions ne pas entendre.
Et justement, parce qu'il y a des appels à la prière qui font grincer les dents de certains fidèles dès 4 heures du matin, et qu'en Tunisie, la majorité des appels ne sont pas enregistrés mais chantés, il est très important de maîtriser les nuances vocales de l'appel à la prière. Fethik Zonda est musicien et professeur. Il nous explique toutes ces subtilités.
Ce sont les mêmes sons, mais la manière de les dire diffère. Le dialecte change. Il y a des sons plus longs, il y a des sons sur lesquels il faut mettre plus d'emphase en Tunisie. Des sons que l'on ne retrouve pas au Moyen-Orient, ils sont plus resserrés.
Les plus grands maîtres muezzins connaissent jusqu'à 10 manières différentes de scander les quelques mots qui rythment les 5 prières quotidiennes. Hélas, ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon nombre de muezzins tunisiens recrutés par le ministère des Affaires religieuses montent dans le minaret après une formation parfois sommaire. En promouvant l'appel à la prière à la tunisienne, le ministère défend également l'islam tunisien. Parfois accusé par des mouvements extrémistes ou des pays plus rigoristes d'être dévoyé. On écoute Ahmed Adoum, ministre tunisien des Affaires religieuses.
L'islam n'a jamais été l'islam du terrorisme dont on parle. Ceci est une occasion de montrer la vérité de l'islam dans le monde musulman, en particulier en Tunisie.
Le message est celui d'un appel pacifique et joyeux.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la Syrie, théâtre samedi dernier d'une nouvelle attaque chimique présumée, encore une fois imputée au régime de Bachar al-Assad. Les condamnations internationales ont été immédiates, mais vont-elles aboutir à une riposte militaire? Le président américain Donald Trump frappera-t-il Damas comme il l'a fait l'an dernier? Comment réagira la Russie de Vladimir Poutine, l'allié indéfectible du gouvernement syrien? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le passage de Mark Zuckerberg ici à Washington et à la Une aux États-Unis, le fondateur de Facebook est entendu aujourd'hui encore, comme hier, par plusieurs commissions du Sénat et de la Chambre des représentants. Cela fait suite au scandale de Cambridge Analytica qui aurait accédé de manière illégale aux données de 87 millions d'utilisateurs. Mark Zuckerberg s'est déjà excusé, mais cela pourrait ne pas suffire, Abdrahmandia.
Mark Zuckerberg admet qu'il s'est trompé et reconnaît son erreur.
Nous n'avons pas suffisamment eu une vue d'ensemble sur notre responsabilité. Et ça, c'était une grosse erreur. Oui, c'était mon erreur.
Et la directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, est sur la même longueur d'onde que son patron.
Eh bien, nous avons commis de graves erreurs et nous en sommes conscients.
Mais Facebook refuse d'endosser seul la responsabilité. Écoutons Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, et Sheryl Sandberg, chef des opérations.
Si Facebook en sait beaucoup sur vous, c'est parce que vous avez accepté de partager ces informations.
Il s'agit de données que les gens ont déjà listées publiquement.
Et il est clair que Mark Zuckerberg, en acceptant de faire face aux parlementaires, tente de prouver en même temps que son organisation se bat pour prévenir des incidents pareils. Une audition destinée en quelque sorte à rassurer Joseph Jérôme, analyste au Centre pour la démocratie et la technologie à Washington, D.C.
Aux États-Unis, une bonne partie de ce qu'on met sur Internet, y compris sur les plateformes comme Facebook et les autres applications, tout ça s'autorégule en quelque sorte. Ce genre d'audition, ce type d'application effective, ce n'est pas très clair.
Résultat, les entreprises de technologie ne payent pas un grand prix pour leur mauvais comportement. Joseph Jérôme, du Centre pour la démocratie et la technologie.
La Commission fédérale du commerce avait réussi à soutirer une amende à Google, mais c'était seulement 20 millions de dollars, ce qui représente, je crois, les revenus de la compagnie en une demi-journée. Donc, les amendes sautent un peu comme le prix à payer pour faire des affaires.
Et ces affaires impliquent toujours le partage des données avec les utilisateurs. Tiers. En dépit du manque de transparence, Sheryl Sandberg de Facebook continue de vanter les bienfaits de l'utilisation des réseaux sociaux.
Nous croyons en un monde où les gens peuvent partager et expérimenter des choses ensemble, mais nous n'avions juste pas assez pensé au côté négatif.
Ce qui est sûr, après deux jours d'audition au Congrès, Mark Zuckerberg pourrait repartir de Washington avec une idée de ce qui pourrait attendre Facebook et les autres réseaux sociaux s'ils ne prennent pas plus au sérieux la protection des données personnelles des utilisateurs.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'hypertension artérielle.
Qualifié de tueur silencieux parce qu'elle ne présente généralement pas de symptômes, l'hypertension artérielle est l'une des principales causes de maladies cardiaques et d'AVC dans le monde.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Wesley Lumika, médecin traitant à la clinique médicale à Brèche en RDC. Il nous dira tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie.
Nous écouterons aussi le témoignage de Jacques Mbongo, un hypertendu de 68 ans vivant à Lubumbashi en RDC. Il nous racontera sa vie avec la maladie.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique comme d'hab. Notre sujet de cette semaine, la pauvreté est-elle une malédiction? Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 3731. Contactez-moi aussi sur ma page Facebook. Interactive RM Show. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le monde aujourd'hui. aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.